Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Nous sommes mardi matin et nous sommes dans La vie est un roman. Et ce matin, j'ai le plaisir, l'avantage et l'honneur de recevoir Frédéric Martel pour son livre événement Sodoma, enquête au cœur du Vatican, paru il y a un mois à peu près maintenant chez Robert Laffont. Alors, il y a bien des façons d'aborder ce livre, ce qui est un livre très très riche et qui est vraiment un livre qui fait événement, ce qui est quand même exceptionnel. Et j'ai fait un petit découpage par pape en fait, parce qu'il est divisé en parties et donc il s'interroge sur chaque pape, le rapport que chaque pape a eu avec l'homosexualité et le rapport que les gens qui étaient... les ministres, entre guillemets, du Vatican avaient avec l'homosexualité et ce qui s'est passé, en gros, avec sur cette question homosexuelle. Le premier pape dont on va parler, c'est Paul VI, qui prend le pouvoir, enfin, qui devient un pape en 1963 jusqu'en 1978, soit qui reste 15 ans pape. Et là, j'ai découvert... à propos d'homosexualité, qu'il était très influencé par un philosophe français que nous, on connaît assez mal, qui s'appelle Jacques Maritain, avec un concept qui est l'amour d'amitié. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de ce Jacques Maritain et du pontificat de Paul VI ?
Bonjour et merci. Bonjour. De m'inviter ce matin. D'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre un système. Donc, je pars de situations individuelles, je pars aussi de positions doctrinales, si on peut dire, pour essayer de comprendre ce système, qui d'ailleurs est d'une grande continuité, on y reviendra peut-être, entre Paul VI, puisque c'est à peu près là où je commence jusqu'à aujourd'hui. Paul VI... On sait, notamment en Italie, que des rumeurs innombrables ont existé sur sa propre homosexualité, rumeurs qui ont d'ailleurs été véhiculées à l'origine par la curie elle-même, au sein de la curie, sans doute par ses ennemis, disons, ou d'autres factions de la curie romaine, mais aussi par des Français. Je pense à Roger Perfit, notamment écrivain français, qui a beaucoup diffusé cette rumeur, d'ailleurs d'une manière très affirmative, puisqu'il était certain, disait-il, que Paul VI était homosexuel. Bon, moi évidemment je n'en sais rien, et je pense que personne n'en saura jamais rien. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de regarder son entourage, regarder aussi ses positions, je l'ai dit, doctrinales, et là... On est très surpris d'abord par le fait qu'il y a beaucoup d'homosexuels autour de Paul VI, y compris parmi ses collaborateurs, certains cardinaux. Et puis il y a l'énigme un peu des Français autour de Maritain. Et ces Français sont assez nombreux. Et tous ont un rapport compliqué, pour le dire de manière un peu presque par euphémisme, à la question homosexuelle. Jacques Maritain est assez proche de Paul VI, il ne faut pas exagérer cette proximité, mais malgré tout il va avoir une influence très grande. Paul VI va traduire un de ses livres en italien, le préfacer, l'accompagner, le voir beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est Jacques Maritain, qui est une figure que pour ma part j'aime beaucoup, puisque c'est quelqu'un qui commence chez Maurras, pour aller vite, donc à la droite dure du catholicisme, et qui va évoluer à cause de la guerre d'Espagne, aussi bien sûr à cause de sa rencontre avec sa femme, celle qui va devenir sa femme, Raïssa, qui est juive, lui-même est un converti, se convertissent ensemble, et il va finir, si on peut dire, même s'il vivra plus longtemps que ça, disons, ambassadeur du général de Gaulle, donc il va être à la fois, va devenir un vrai démocrate, contribuer à la rupture de Rome avec l'antisémitisme, la rupture de Rome aussi avec... disons-le, le fascisme italien, et cette figure est passionnante, et notamment à partir du moment où on découvre, et on a ses lettres, mon éditeur Jean-Luc Barré les a lues, on en a des extraits, ces lettres d'amour à un jeune garçon à la fin de sa scolarité, et ces lettres d'amour révèlent... Personne ne saura non plus s'ils ont été amants physiquement, en tout cas révèle une homosexualité sublimée, une homophilie probablement non assumée, mais bien réelle. Et voilà, un nouvel indice. Moi, je fonctionne, c'est un pulse, ce livre. Chaque petit bout du pulse, j'essaye de le comprendre, je l'apporte à l'ensemble du travail, et puis à la fin, le pulse, me semble-t-il, est complet.
Et Maritta, c'est aussi Cocteau, c'est aussi
Oui, ces amitiés, ces amitiés homosexuelles sont frappantes, multiples, obsessionnelles. Il a d'ailleurs une volonté de les convertir la plupart du temps, ce sont des catholiques, mais d'essayer de faire en sorte que la foi leur permette d'éviter de vivre leur homosexualité. Il essaye de forcer Gide, qui est protestant, à ne pas publier son livre sur l'homosexualité, Corydon. Il fait la même chose avec Cocteau pour le livre blanc. Et il va être à la fois entouré dans cet entourage à Meudon, notamment d'homosexuels très, très actifs, en fait, très pratiquants. Tous se révèlent ou sont plus ou moins homosexuels par la suite. On peut citer Maurice Sachs, on peut citer Raymond Radiguet, on peut citer, tout un univers, Julien Green, bien sûr. Et là, je crois qu'il y a un mystère, Julien Green. Je ne veux pas insister sur une homosexualité qu'encore une fois, on ne pourra pas prouver. Mais il est clair qu'on est dans un univers homophile, d'amour, d'amitié, comme on dit depuis longtemps, hein, depuis d'ailleurs Saint Thomas d'Aquin, donc c'est pas tout à fait récent. Je pense que ça donne des indices sur une chasteté tellement obsessionnelle, cache souvent une peur de l'homosexualité à cette époque et une volonté de masquer cette homosexualité à travers, au fond, la foi. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là n'avaient pas la foi, ils étaient tout à fait sincèrement catholiques, mais ils étaient aussi pour une large part homosexuelle.
Peut-être qu'il faudrait introduire cette dimension. Ce jeune homme qui est mal, qui grandit dans un petit village en Italie, par exemple, sa mère commence à s'inquiéter, il est bizarre, ses camarades commencent à lui devenir un peu hostiles, il devient séminariste et il est sauvé. Il s'intègre socialement, brusquement, il a un rôle et il est même assez... il va être, assez respecté par ses camarades, par ce fait qu'il est devenu séminariste. Et donc, on a un petit peu ce fil conducteur tout le temps. C'est-à-dire qu'on a là des écrivains, toute cette problématique autour de l'homosexualité. Et la question, c'est la question du passage à l'acte. Mais quand même, il y a toujours ce rapport très fort avec la religion catholique. Il y a une espèce d'espace. Qui a à voir avec l'homosexualité, un espace social très fort.
Oui, je pense que la question, elle est moins de savoir si le cardinal A, l'évêque B ou le prêtre C est homosexuel. La question, c'est de comprendre pourquoi l'Église s'est mise, et sans doute est-ce très ancienne d'ailleurs, mais pour la période que j'étudie, s'est mise à attirer à elle, vers elle, à recruter et à promouvoir des homosexuels massivement. Et c'est une sociologie. Vous l'avez bien dit, effectivement, faut bien repenser à, enfin, faut bien voir qu'on parle là des années 50, des années 40, des années 60, c'est-à-dire bien avant la libération sexuelle tout court, et encore plus, bien avant la libération homosexuelle. Et donc, quand vous êtes un petit, dans un petit village, ou même dans une famille bourgeoise italienne des années 50, et que vous découvrez votre homosexualité, ou même que vous ne savez pas trop ce qui se passe, vous n'êtes pas trop attiré, vous l'avez dit, par les femmes, vous voulez pas vous marier, on se moque un peu de votre voix, un peu efféminée. Je suis un peu dans les préjugés là, mais c'est comme ça que les gens le vivent et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils réagissent. Eh bien, vous êtes perdu. Si vous êtes homosexuel, votre vie va être terrible, l'honneur de votre famille va être entaché, c'est ce qu'on pense à l'époque. Et donc, devenir prêtre, c'est une solution. Je pense que ce parcours-là, c'est celui de milliers, je dirais même sans doute de centaines de milliers de prêtres à travers le monde qui se sont tournés vers le sacerdoce parce qu'ils étaient homosexuels. Encore une fois, c'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas la foi. Je pense qu'ils étaient très sincèrement, surtout à cette époque, croyants et qu'ils avaient aussi l'appel de la foi. Mais cet appel de la foi était peut-être, je dirais, doublé d'un appel plus secret pour, au fond, la religion et surtout le sacerdoce. C'est une manière de mettre sa religion sous tutelle et de pas la vivre. C'est au fond aussi de ne pas faire ce choix-là de vivre l'homosexualité. Et puis, on sait tous, on le savait déjà à l'époque, on le sait encore plus aujourd'hui, dans un séminaire et ensuite quand on est prêtre, l'important c'est de ne pas d'abord être hétérosexuel, il faut surtout pas avoir de sexualité avec les femmes, il faut surtout pas se déclarer homosexuel évidemment, hein. Il faut par ailleurs, tout ça doit être secret, on est d'autant plus secret qu'on est homophobe à l'extérieur, donc on dit qu'on déteste les homosexuels, après à l'intérieur, tout le monde sait depuis longtemps qu'on fait un peu ce qu'on veut.
Et alors le pape suivant, donc c'est le grand pape qui a provoqué l'effondrement du communisme. Enfin, c'est comme ça, comme il était polonais, c'est comme ça c'est qu'il était vécu comme icône, disons. C'est Jean-Paul II qui règne de 1978 à 2005, soit 27 ans. Et vous parlez autour de lui d'un anneau de luxure. Et aussi, j'ai découvert en lisant votre livre qu'il est... on le voyait très sportif, très sain, comme ça. Et moi, qui ne connais pas ces questions, j'ignorais totalement qu'il avait été sénile et atteint par la maladie de Parkinson et que c'est un invalide pendant la majeure partie de son pontificat.
Pas pendant la majeure partie, c'est un très très long pontificat qui va durer donc de la fin des années 70 au début des années 2000. Donc finalement, une période très très longue. Il est vrai que on savait tous qu'il était très malade et qu'à la fin de son pontificat, il était totalement incapable de se déplacer, de gérer la curie, même s'il voyageait encore dans des moments très très complexes pour son entourage qui le portait comme ça. Je pense en effet que plutôt que ce qu'on croit, il n'a pas forcément géré les affaires courantes et peut-être sans doute a-t-il été plus précocement qu'on ne le croit, très malade. En tout cas, au début de sa carrière, à la fin des années 70, début des années 80, dans les années 80 d'ailleurs, globalement, il est encore très très en forme. Et ce qui est intéressant, là encore, c'est que ce pape, au fond, pour moi en tout cas, c'est, vous l'avez dit, le pape de la fin du communisme. C'est une figure jeune et dynamique, c'est une figure politiquement à droite, mais très très hostile au communisme et qu'il va contribuer à faire tomber, non seulement bien sûr en Pologne et dans l'Europe centrale et orientale, mais il va aussi mener cette bataille en Amérique latine, notamment contre la théologie de la libération. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est un pape, moi pour lequel j'ai beaucoup d'affection en réalité, pape mystique, grand mystique, pape aussi de la géopolitique, arpenteur du monde, pape d'une foi très intense et qui va devenir, on l'a dit, pape de la souffrance à partir du moment où il va devenir très malade. En revanche, ce qui est plus, qui n'était pas connu pour moi, mais aussi sans doute pour beaucoup de lecteurs, c'est que autour de lui, effectivement, des cardinaux, des assistants vont être particulièrement, je dirais, intéressés par l'argent. Et aussi, ça c'était connu, le problème de l'argent autour de Jean-Paul II. Je pense au célèbre archevêque Marcinkus, sur lequel beaucoup a déjà été écrit, qui était lui-même d'ailleurs homosexuel. Mais aussi d'autres figures clés du pontificat. Et moi, je montre que sur les 12 collaborateurs principaux du pape, 6 sont activement homosexuels. Certains ont des mignons, ont une vie très active avec des prostituées, etc. Et là, effectivement, c'est une autre figure, une autre image du pontificat qui apparaît. Je ne sais pas, honnêtement, si le pape était au courant de la vie sexuelle dévergondée de son entourage, aujourd'hui bien documentée, en tout cas par ce livre et par la documentation qui l'accompagne. Il y a plus de 300 pages de notes de bas de page que j'ai publiées en ligne. Le livre est déjà assez costaud et donc j'ai mis toutes ces notes en ligne. Voilà. Et ce qui est frappant quand même, c'est que ces gens qui vont prendre une décision d'interdire le préservatif, par exemple, avec le pape, au moment d'une des épidémies les plus graves de l'histoire récente, le sida, qui va quand même coûter la vie à 37 millions de personnes à travers le monde, Et l'interdiction du préservatif, évidemment, c'est une faute. Personne aujourd'hui défend réellement cette position. Même le pape François a dit que l'important c'était de soigner, d'éviter la contamination. Et donc, comme moindre mal, il a défendu le préservatif. Quand on sait que la moitié de ses collaborateurs du pape étaient eux-mêmes homosexuels, c'est abyssal, c'est très inquiétant.
Et là, on a une matière qui est très riche. Par exemple, on a le vilain du livre qui s'appelle Angelo Sodano, là, les légionnaires du Christ. Et donc ça, c'est des gens... et on a aussi Caradina, ou Martial, la figure démoniaque de l'anticommunisme. On a des méchants. Moi qui ai vécu toute cette période et qui lisais le Monde tous les jours, on a des figures quasiment diaboliques, en fait.
Oui, alors il faut pas, on peut pas toutes les confondre. Vous avez cité Marcel Maciel ou Caradima, qui sont des prêtres, seulement des prêtres d'ailleurs, pédophiles, très massivement pédophiles. Dans les deux cas, ce sont des affaires très très douloureuses, d'abord pour les victimes, mais aussi pour l'Église qui a supporté trop longtemps ces figures. Fribourg. Angelo Sodano, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui n'a jamais été accusé d'ailleurs d'abus sexuels de quelque sorte que ce soit. En revanche, il énonce au Chili, donc il protège sans doute indirectement ou directement Cara Dima. Il devient le ministre des Affaires étrangères de Jean-Paul II et surtout son secrétaire d'État, c'est-à-dire au fond son premier ministre. Et là, effectivement, on a une figure très, très d'extrême droite, hein, très durement hostile au communisme, extrêmement proche de Pinochet, beaucoup plus qu'on ne le croit. Je révèle toutes les enquêtes, à partir des notes des départements d'État américains qui ont été déclassifiés, tout un tas de documents qui montrent sa proximité avec le régime, qui est une figure totalement entourée d'homosexuels, notamment au Chili, mais aussi à Rome. Et là, on a beaucoup de mystères hein, qui restent, dont je pense que je suis un des premiers à lever le mystère sur tout cet entourage de Jean-Paul II. C'est sans doute que le début d'une longue histoire à écrire et que pour l'instant, on ne connaît que très imparfaitement.
J'ai aussi noté López Trujillo, cardinal qui fait assassiner les prêtres progressistes.
Oui, alors López Trujillo, c'est une figure fascinante, c'est aussi un vilain de mon livre. Bon, on revient pas de ce parcours. Enfin, grande figure à Medellín, surtout archevêque de Medellín, donc en Colombie, qui va être un guerrier hein, contre la théologie de la libération, va être nommé par Jean-Paul II à la tête du Conseil pontifical pour la famille par la suite, il va arriver à Rome, et là il va prendre la direction d'une campagne délirante contre les homosexuels, contre la sexualité hors mariage, il va attaquer d'une manière extrêmement violente le préservatif, faire en sorte que ce soit interdit partout en Afrique, en Amérique latine, en Asie. C'est quelqu'un qui va effectivement contribuer à dénoncer, on ne sait pas trop exactement comment, d'autres livres sont en préparation sur López Trujillo, Alfonso López Trujillo, en Colombie, on en saura plus j'espère, effectivement dénoncer des prêtres communistes ou en tout cas très progressistes et qui seront assassinés par essentiellement les paramilitaires colombiens. Et puis, ce qui est frappant, c'est que je découvre, et ça j'apporte beaucoup d'informations, de preuves à son sujet, je découvre qu'il a lui-même une vie homosexuelle très, très active, alors même qu'il dénonce la sexualité hors mariage, alors même qu'il est très violemment anti-homosexuel, il va avoir une vie homosexuelle très, très riche, avec notamment, c'est le cas de le dire, des prostituées qu'il va faire recruter par des prêtres. J'ai interviewé les prêtres qui lui apportaient ces prostituées dans un appartement secret où j'ai été, à Medellín. Et voilà, figure effectivement démoniaque, schizophrénique, probablement très, très mal dans sa peau. Et en même temps, l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Paul II et un des cardinaux, il va être créé cardinal, l'un de ceux qui va faire le pape Benoît XVI. Et donc, voilà, alors quand on lit ce type d'histoire, les gens d'ailleurs me disent en lisant ce livre, c'est même pas les bras leur en tombent, quoi. Ils tombent de leur chaise. Enfin, comment ça a été possible? Alors même que tout le monde savait ça. Alors même que cette double vie de López Trujillo n'est un secret pour personne. C'est un secret de polichinelle, comme on dit en français. Voilà, le mystère demeure. Tout ça est tragique, enfin, et aussi totalement incroyable.
Bah, ce qui est très impressionnant dans votre livre, c'est la réunion de ces faits.
C'est ce portrait global de l'institution.
Vous aviez raison.
Si vous aviez une brebis galeuse, ça existe dans tout système, y compris les plus purs. Mais là, effectivement, c'est un système. C'est un système très massif. Je pense d'ailleurs, pour être honnête avec vous, je pense que je suis en deçà de la réalité. Quand on fait un livre comme ça, qui est un livre compliqué, hein, y compris sur le plan juridique, j'ai 14 avocats sur ce livre. Donc, c'est contrôlé, si vous voulez. On sait dès le départ qu'on ne pourra pas tout dire. On sait dès le départ qu'on ne pourra pas tout écrire. Et donc, je suis obligé de fonctionner avec... Je ne oute pas les gens. Je ne suis pas là pour les dénoncer ou dénoncer leur homosexualité. Moi, je suis openly gay. Je défends les gays. Et le fait qu'un prêtre ou un cardinal ou un évêque soit homosexuel ne me pose à moi aucun problème. D'ailleurs, ils sont si nombreux à être homosexuels que ça devrait être presque un choix ou en tout cas une possibilité parmi d'autres. Voilà, mais ce que cette Église a fait et a dit au monde et ce que par ailleurs elle faisait en privé est encore une fois une schizophrénie délirante.
Et donc le pape suivant, c'est Benoît XVI qui va régner de 2005 à 2013. Et là, l'abcès va crever. Donc il règne pendant 8 ans et c'est une succession de scandales et de démissions. Lui-même porte des fois une longue robe rose bonbon Et il a son secrétaire qui s'appelle Georg, qui passe dans la presse People italienne en short moulant. Il le couronne, enfin il y a une page sur le couronnement du mignon. Vous dites avoir de la tendresse pour lui. Et c'est le pontificat, vous écrivez aussi que c'est le pontificat le plus gag de l'histoire.
Le plus gay de l'histoire.
Ouais. J'ai écrit gay, j'ai les gags. Mais à partir de 2010, les scandales de pédophilie vont succéder. Et il va y avoir une chose qui est particulièrement douloureuse pour lui, c'est la question de son frère, qui a été en charge d'une chorale pendant 30 ans et, en Allemagne, à Ratisbonne. Et donc là, ça va prendre des proportions, qui vont être vraiment, cette succession de scandales, de révélations. Enfin, on va avoir, ça a commencé d'un côté avec des, moi je pensais que c'était, ça avait commencé au Canada, mais les premiers chiffres étaient tout de suite en milliers d'affaires de pédophilie. Oui.
Alors, pour moi, c'est Benoît XVI, donc Joseph Ratzinger, est une figure tragique. C'est une figure que je trouve assez sincère, finalement, puisque on peut penser, en tout cas, c'est un peu mon hypothèse, qu'il est homophile. C'est-à-dire qu'il est son attirance un peu sublimée, naturelle, et pour les garçons, et non pas pour les filles. Il va s'entourer d'homosexuels, il va être très marqué par cette question, lire beaucoup sur ce sujet, être vraiment dans un univers homo-érotique et avec beaucoup de relations d'amour, d'amitié autour de lui, d'homophilie très, très récurrente. Et en même temps, il va répéter que quand on est homosexuel, il s'adresse aux autres, il faut rester chaste. Et au fond, c'est ce qu'il fait. Et bon, on peut évidemment trouver ça anachronique en 2019, mais n'oublions pas qu'on est sur une figure qui a aujourd'hui 92 ans, je crois. Donc, pour comprendre Joseph Ratzinger, d'ailleurs, comme pour comprendre la plupart de ses papes, il faut se mettre à leur place quand ils avaient 20 ans dans les années 40 ou encore une fois dans les années 50. Et donc, ce parcours-là du célibat, de la chasteté, de la peur de l'homosexualité qui, pensait-on à l'époque, vous menait directement en enfer. Hein, ça, vous sentiez le roussi, pour prendre une expression de Rimbaud. Bon, ben voilà, il, au fond, il impose aux autres ce que sans doute il s'est imposé pour une part à lui-même. Bon, encore une fois, on peut critiquer ça, mais c'est assez beau, c'est assez touchant. Et je dirais que par rapport à tous ces cardinaux qui vont avoir des doubles vies, qui vont coucher avec des prostituées, bah, lui, au moins, il est sincère, il est honnête. Il est peut-être homosexuel, il décide de pas vivre cette homosexualité, de rester chaste, et voilà, bah, il fait ça. Et alors, évidemment, le problème, c'est qu'il va avoir un discours très homophobe, hein, classique. On m'a souvent dit, mais c'est incompréhensible, pourquoi ces gens sont homophobes alors qu'ils sont homosexuel. Bah, je réponds non, c'est pas contradictoire, c'est presque une conséquence. C'est une conséquence, il suffit de relire Proust, vous êtes très homophobe parce que vous voulez cacher votre homosexualité. C'est quelque chose de très ancien. Hoover, par exemple, l'ancien patron, à l'époque patron du FBI, est lui-même très homophobe, il fait des fiches sur les homosexuels, il les contrôle, il les surveille, il les dénonce et lui-même vit avec son directeur adjoint qui est son amant. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique, c'est triste encore une fois, puisque l'histoire des homosexuels sexuelle est marquée par cette homophobie qui vient d'eux-mêmes, hein, qui vient de gens qui leur ressemblent. Joseph Ratzinger, sans doute, Benoît XVI, n'échappe pas à cette triste règle.
Et donc, ils vont réagir très très mal à cette section de scandale. Ils vont être dans le déni, la sidération, la panique, et ils vont montrer aucune empathie pour les victimes. Enfin, ils vont...
C'est pas tout à fait exact. Enfin, d'une certaine manière, on trouve beaucoup de textes où, effectivement, il y a un peu d'empathie chez Joseph Ratzinger. D'ailleurs, au fond, la figure qu'il aime beaucoup, qu'il valorise, c'est cet homosexuel qui a accepté de rester chaste. Donc, il y a de l'empathie. Hein,
mais
de
là,
la
je parlais part... dans les cas de pédophilie.
Ah oui.
Et surtout les scandales de pédophilie.
Oui, mais bien sûr.
On devrait peut-être dire que vous pensez que ils protègent les pédophiles parce qu'ils ont peur qu'on révèle leur propre homosexualité. Alors, ça, c'est systémique
oui,
aussi.
Oui, je reportais au point de départ. Ce qui est très essentiel, c'est que l'Église a entretenu depuis très longtemps, mais encore plus sous Jean-Paul II et Benoît XVI, et notamment sous Joseph Ratzinger, parce qu'il est cardinal en charge de la doctrine de la foi avant de devenir pape, et toutes les années 80-90, sous Jean-Paul II, c'est Benoît XVI, enfin c'est le futur Benoît XVI, c'est Joseph Ratzinger qui est le doctrinaire en chef de l'Église. Et il a introduit une confusion constante entre l'homosexualité et les abus sexuels. Quand on lit bien, au fond, ces textes, il n'y a pas de vraie différence entre quelque chose d'abominable, à savoir l'homosexualité, qui est punie si elle est pratiquée, qui est considérée comme intrinsèquement désordonnée et qui est un péché grave, et les abus sexuels qui sont également un péché, mais sans que, au fond, on distingue ce que l'Église aurait dû faire depuis longtemps, des actes entre majeurs consentants d'une part, à savoir l'homosexualité, et d'autre part, des actes avec des mineurs ou d'ailleurs avec des majeurs mais non consentants et dans position d'abus de pouvoir ou d'agression sexuelle. Et cette différence n'est jamais faite, et au point où effectivement pas mal des évêques qui vont protéger des prêtres pédophiles sont eux-mêmes homosexuels et sont dans cette confusion-là. Et vont parfois avoir tendance à protéger ces prêtres parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes, parce qu'ils se sentent coupables alors même qu'ils sont seulement homosexuels, et tout est très mélangé. Cette confusion est incroyable dans l'Église. J'ajoute que il y a aussi beaucoup de ces agresseurs qui sont attirés par les garçons. N'oublions pas que dans l'Église catholique, 80 à 85% des victimes sont des garçons mineurs ou des jeunes hommes majeurs, beaucoup de séminaristes d'ailleurs. Donc on est dans l'Église catholique, les abus sexuels sont homosexuels, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des abus en général, puisque dans la société, les abus sont plutôt hétérosexuels, très massivement, et les victimes plutôt des femmes ou des filles. D'ailleurs, il n'y a évidemment aucun lien entre homosexualité et abus sexuels. Mais dans l'Église, effectivement, on a affaire à une forme de dérive d'homosexualité. Le problème, ce n'est pas l'homosexualité, le problème, c'est l'homosexualité refoulée, rejetée, réprimée, la haine de soi, souvent d'ailleurs le mensonge vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Et voilà, et aujourd'hui, l'Église, évidemment, paye au prix très très fort ces erreurs.
Et Benoît XVI, c'est un théologien, donc il n'avait pas du tout le sens pratique. C'est pas quelqu'un qui gérait. Et il va donc se trouver dans une telle impasse qu'il va démissionner. Et ça faisait plusieurs siècles que ça n'était pas arrivé dans l'Église catholique qu'un pape démissionne. C'est vraiment exceptionnel.
Oui, et puis moi je montre que il y a beaucoup de raisons à la démission d'un homme. Surtout, c'est pas une démission, hein, et on n'a pas démissionné du McDo. Hein, c'est vraiment une démission complexe et très longue, qui va atteindre le monde entier, qui va avoir beaucoup de répercussions. Et évidemment, pour la comprendre, sans doute, il faut chercher les nombreuses raisons. Moi, j'en identifie 14 à peu près. Et sur les 14, une dizaine sont liées directement à la question homosexuelle. On a dit beaucoup que c'était pour des raisons de santé. Enfin, il est encore vivant aujourd'hui. On est quoi, 7-8 ans après. Ça prouve que la santé n'était pas si... Enfin, voilà, il était assez malade et tout. Mais bon, je pense qu'il y a eu d'autres choses. La santé a joué un rôle. D'autres éléments ont joué. Mais la question homosexuelle joue également à sa place, tient sa place dans cette démission. Succession de scandales, vous l'avez dit, succession d'affaires, Vatil X 1, Vatil X 2 par la suite. Succession aussi d'erreurs, de discours calamiteux, de nominations d'incompétents. Benoît XVI est un des pires papes finalement de l'histoire récente, théologien qui aimait trop les livres et trop les textes pour peut-être savoir gouverner et savoir s'entourer. Donc voilà, désastre. L'Église s'en sort très mal, et c'est aussi ce qui contribue à l'élection du pape François.
On va faire une petite pause musicale, Gilles, s'il te plaît.
Élève-toi dans l'air de la lune, ô ma gosse. Viens couler dans ma bouche un peu de sperme lourd qui roule de ta gorge à mes dents, mon amour, pour féconder enfin nos adorables noces. Colle ton corps ravi contre le mien qui meurt d'enculer la plus tendre et douce des fripouilles. En soupesant charmé tes rondes blondes couilles, mon vie de marbre noir t'enfile jusqu'au cœur. Oh, vise-le dressé dans son couchant qui brûle, et va me consumer. J'en ai pour peu de temps. Si vous l'osez, venez. Sortez de vos étangs, vos marais, votre boue vous faites des bulles. Âme de mes tués, tuez-moi, brûlez-moi. Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie. Mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi, mon ventre, mes genoux, mes mains roses des mois. Les coqs du poulailler, l'alouette gauloise, les boîtes du laitier, une cloche dans l'air, un pas sur le gravier, Mon carreau blanc et clair, c'est le luisant joyeux sur la prison d'ardoise. Messieurs, je n'ai pas peur. Si ma tête roulait dans le son du panier avec ta tête blanche, la mienne par bonheur sur ta gracile hanche, ou pour plus de beauté sur ton cou, mon poulet. Attention. Roi tragique à la bouche entrouverte, j'accède à tes jardins de sable désolé, où tu bandes figé, seul, et deux doigts levés, d'un voile de lin bleu ta tête recouverte. Par un délire idiot, je vois ton double pur. Amour, chanson, marraine. Est-ce un spectre mâle, entrevu lors des jeux dans ta prunelle pâle, qui m'examine ainsi sur le plâtre du mur? Ne sois pas rigoureux. Laisse chanter matine à ton cœur bohémien. M'accorde un seul baiser. Mon Dieu, je vais claquer sans te pouvoir presser dans ma vie une fois sur mon cœur et ma pine.
Et donc il nous reste un pape, c'est le pape actuel, François. Alors, c'est un jésuite. Et la question de son rapport à l'homosexualité, comment est-elle? Comment est-ce qu'on peut en parler?
Bah, écoutez, c'est un jésuite de 82 ans, c'est un jésuite péroniste, argentin, qui effectivement va être un jour pro-gay et le lendemain anti-gay. Donc on a du mal à suivre son raisonnement. Pour essayer d'être un peu optimiste, on peut dire que lorsqu'il est face à des situations individuelles, des collaborateurs qui se révèle être homosexuel ou face à des amis ou à des personnes homosexuelles, il va être plutôt gay-friendly et vraiment avoir une forme de compassion, d'empathie pour ces figures-là. Ensuite, lorsqu'il va être face à des mouvements politiques de revendication LGBT ou tout simplement le mariage gay, il va être très 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 hostile à tout ça. Et son parcours est assez clair par rapport à ça. C'est qu'il va être plutôt très modéré sur les unions civiles. Il ne les a jamais vraiment défendues, mais il ne s'est pas opposé non plus trop violemment à elles. Par contre, il est un combattant contre le mariage gay, d'abord en Argentine, lorsqu'il est archevêque de Buenos Aires et cardinal. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en Argentine, j'y vais d'ailleurs cette nuit, je vais à Buenos Aires tout à l'heure, et j'y étais déjà allé deux fois pour mon enquête, les Argentins sont très divisés hein, sur ce pape, qui est paradoxalement, ils adorent le pape, mais ils aimaient beaucoup moins le cardinal Bergoglio. Donc voilà. Après, encore une fois, on ne peut pas demander sans doute à un homme de 82 ans, péroniste, argentin, jésuite, hein, pour qui, vous savez, une demi-vérité est souvent un demi-mensonge. On ne peut pas lui demander d'aller à la Gay Pride de Rome. C'est évident qu'il est très... il est d'une autre époque.
Alors moi, l'impression que j'avais en lisant le livre, c'est qu'il était plutôt anti-répression, c'est-à-dire qu'il intervient, ou alors c'est un coup à gauche, un coup à droite en fait, mais son histoire de rigidité, chaque fois qu'il y a des déclarations vraiment radicales pour interdire ceci ou cela, il intervient contre la rigidité. Est-ce que je me trompe sur cette question de la rigidité ?
Je pense que François, le pape François, est pris dans une guerre, une bataille très violente entre, je dirais, une extrême droite très homophobe, d'ailleurs très américanisée, qui le pousse qui lui interdit d'être progressiste au fond, hein, qui condamne très violemment ses propos sur les migrants, qui critique même ses positions contre la peine de mort, qui lui reproche d'être gay-friendly à leurs yeux en tout cas, etc. Et puis une aile plus progressiste qui existe aujourd'hui très fortement en Allemagne, aux Pays-Bas, dans des pays comme la Belgique, des pays comme l'Autriche, et même pour une part en France. Voilà, le pape est un peu... C'est une bataille politique très violente, ce qui explique aussi en bon jésuite et aussi en politique tout simplement, il... passe son temps à soigner des majorités qui changent, à ne pas trop obséder son opposition, très radicale encore une fois, et qu'il dénonce d'ailleurs. Il dit toujours, ce sont des rigides qui mènent une double vie. Il parle des cardinaux qui s'attaquent à lui. Il dit qu'ils sont schizophrènes, qui sont hypocrites. Et en fait, le pape nous dit quoi ? Nous dit, on sait qu'ils sont homosexuels, on sait qu'ils ont une double vie. Et donc, en fait, il les dénonce sans les nommer, bien sûr. Et voilà, et d'une certaine manière, il a raison, puisque c'est effectivement, moi, ce que j'ai constaté, cette opposition, tous ceux qui l'attaquent, tous ces fameux doubias, ces fameux opposants, ces rigides qui mènent double vie, bah, ce sont très souvent des homosexuels qui sont soit chastes et homophiles, soit très activement homosexuels. Et voilà ce que le pape leur reproche.
Oui, alors votre livre a 14 règles. C'est donc, et là si je lis la sixième, « Derrière la majorité des affaires d'abus sexuels se trouvent des prêtres et des évêques qui ont protégé les agresseurs en raison de leur propre homosexualité et par peur qu'elle puisse être révélée en cas de scandale. La culture du secret qui était nécessaire pour maintenir le silence sur la forte prévalence de l'homosexualité dans l'Église a permis aux abus sexuels d'être cachés et aux prédateurs d'agir. » Donc c'est une des 14 règles.
Oui, je crois que en effet, ce livre n'est pas sur les abus sexuels et c'est pas mon sujet. Mais il est vrai que pour comprendre, vous savez, quand vous avez un phénomène si massif, on parle de plus de 6 000 prêtres soupçonnés, critiqués, condamnés pour des abus sexuels aux États-Unis, plus de 5 000 ou 4 900 et quelques en Australie, des centaines en Irlande, des centaines aux Pays-Bas, au Chili, au Mexique, en France aussi, etc. Et donc, face à un phénomène qui n'est pas anecdotique, qui est un phénomène massif, sociologique, un phénomène social, c'est pourquoi les prêtres se mettent comme ça à abuser des enfants. Alors d'abord, ça prouve que la chasteté est très relative. Hein, même si c'est pas tous les prêtres qui sont concernés, puisqu'on pense que c'est autour de 2-3%, ce qui fait un très petit nombre, mais ça fait un grand nombre de victimes. D'autre part, c'est aussi une culture du secret qu'on appelle d'ailleurs souvent le cléricalisme, c'est-à-dire au fond une forme de raison d'État qui fait toujours privilégier l'institution plutôt que les victimes. Et voilà, et ce discours, on le voit bien quand le pape finalement soutient le cardinal Barbarin, lui-même est victime de ce cléricalisme. Et c'est un peu tragique, je dirais, que c'est qu'en 2019, après tant de scandales, l'Église n'ait toujours pas une réponse. Et alors pourquoi elle n'a pas de réponse ? Elle n'a pas de réponse, et je pense que mon livre le montre, c'est que le système est entièrement pipé. Le système est basé sur un mensonge général, qui est la sexualité des prêtres, avec l'homosexualité très majeure d'un très grand nombre de cardinaux, d'évêques, de prêtres, y compris ici en France. Regarde, j'ai suivi l'élection de la conférence épiscopale française récemment. Il y avait un certain nombre de batailles qui étaient liées à des questions homosexuelles. Et l'entourage homosexuel d'un certain nombre de prélats très importants aujourd'hui à Paris ou dans la conférence épiscopale de France montre bien que c'est un système où, encore une fois, à cause du célibat, à cause de la chasteté, l'Église recrute des homosexuels. Et en même temps, comme elle ne veut pas le reconnaître, elle ment sur ses prêtres, ses prêtres mentent sur eux-mêmes. Voilà comment elle peut en sortir. Il n'y a pas de solution, puisque au fond, si vous voulez vraiment sortir de ce système, il faut tout changer, changer la doctrine profondément. Et comme on le sait, la doctrine, elle change. Elle a changé tout au long des siècles. C'est même une définition de l'Église que de changer sa doctrine. Donc, voilà, vous savez, on fait dire ce qu'on veut à la Bible. La Bible, elle peut être gay-friendly, elle peut être homophobe, elle peut être pour les femmes, contre les femmes, elle peut être pour le fait d'avoir plusieurs femmes ou d'en avoir qu'une. On peut tuer ses enfants ou on peut les sauver. Enfin, bref, on fait dire ce qu'on veut à la Bible et même aux évangiles. Donc, il est grand temps sans doute de se mettre à relire la Bible un peu à l'aune de l'année des années actuelles.
Et on peut dire la même chose du Coran. On voit des versions d'applications du Coran qui sont extrêmement différentes, qui sont à des bords opposés. Et Éric de Moulin-Beaufort, donc le nouveau président de la conférence épiscopale, proposait d'entreprendre une étude épidémiologique, et ça me semblait être après votre livre, quoi. Il y avait vraiment là.
Non, mais lui-même, cette semaine, oui, mais lui-même est pris dans des tensions très vives. vivre entre d'ailleurs des clans homosexuels qui existent autour de lui. Bon, il a fait des déclarations absurdes. Enfin, comment est-ce qu'il peut parler de l'homosexualité comme si c'était un truc très éloigné, alors qu'il sait très bien qu'à la conférence épiscopale, il y a beaucoup d'homosexuels, alors que dans l'Église de France, on a beaucoup d'homosexuels. Voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut que l'Église choisisse la vérité, non plus le mensonge, non plus la double vie. Mais encore une fois, c'est pas, ils font ce qu'ils veulent. Au fond, si même ils veulent être secrètement homosexuels, c'est un peu leur problème. Mais la difficulté, c'est que, et l'hypocrisie, c'est d'avoir un discours haineux à l'égard des homosexuels, alors même qu'ils sont très pratiquants, hein, pour prendre un mot très codé.
Et alors, vous dites aussi, c'est la règle 7, que les cardinaux, les évêques et les prêtres les plus gays, friendly, et ceux qui parlent peu de la question homosexuelle sont généralement hétérosexuels.
Oui, mais alors là, pour le coup, je suis très sûr de moi. Au plus vous êtes homophobe, hein, les cardinaux, les évêques de France qui ont été très homophobes, qui sont descendus dans la rue contre la manif pour tous, très souvent, ce sont des homosexuels. Et effectivement, moi, quand je rencontre le cardinal Omela, le cardinal Casper, ou des cardinaux de Curie qui sont très gay-friendly, qui vous reçoivent, qui n'ont aucun problème avec l'homosexualité, qui en parlent calmement, vous savez... Et vous comprenez qu'ils sont hétérosexuels. Donc c'est là où il y a une sorte de paradoxe, je dirais, à être très homophobe et en même temps homosexuel. Voilà, enfin, ça c'est vraiment la définition de mon livre, hein. Et s'il y avait une seule chose dont je serais fier, c'est si les gens comprenaient ça. Quand on est homophobe, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on a quelque chose à cacher, c'est qu'on a quelque chose qu'on... C'est-à-dire, encore une fois... On a le droit de pas défendre le mariage gay. Franchement, moi je l'ai défendu, mais ça peut être, on peut être contre le mariage gay. Par contre, être obsédé par ça, ne parler plus que de ça, penser tout le discours de l'Église par rapport à la haine contre les homosexuels, descendre dans les rues avec les pires figures de l'extrême droite.
Frigide Barjot ou des choses ridicules comme ça.
Qui elle-même, Frigide Barjot, d'ailleurs je l'ai rencontrée, elle aime beaucoup mon livre, dit-elle, ce qui était intéressant. elle est elle-même assez gay friendly en tout. Entourée d'homosexuels. Et d'ailleurs, elle m'a parlé d'un certain nombre d'homosexuels actifs dans l'Église de France. Elle le sait très bien, comme tout le monde. Donc, là, encore une fois, quand il y a cette obsession, hein, c'est la fameuse phrase d'Hamlet, hein, quand vous faites trop de serments, c'est que vous avez quelque chose à cacher. C'est, je crois, acte 3, scène 2, si je me trompe pas, lors de la pantomime d'Hamlet, et où Hamlet piège sa mère, où il comprend qu'elle a probablement fait assassiner avec son beau-père, son propre père, Hamlet, lui-même, père a été assassiné et il arrive à piéger ses beaux-parents et sa mère parce qu'elle le dénonce trop fortement, ce crime. Et voilà, quand vous êtes si obsédé, il y a quelque chose de pas clair.
Et alors la 12e règle, les rumeurs collectives sur l'homosexualité d'un cardinal ou d'un prélat sont souvent le fait d'homosexuels eux-mêmes dans le placard qui attaquent ainsi leurs opposants libéraux. Ce sont des armes essentielles utilisées au Vatican contre des gays par des gays. Alors ça devient plus compliqué, on a un scénario
c'est en cela que ce livre est complexe, parce que il est très contre-intuitif. Vous voyez quelqu'un d'homophobe, a priori vous dites bon, il n'aime pas les homosexuels, en fait il est homosexuel, et celui qui lui va être comment dire, gay-friendly, c'est lui qui est hétérosexuel, donc c'est assez drôle. Et d'autre part, ce qui est très fascinant, c'est que vous avez, je dirais, dans l'espèce de ce système, beaucoup de paradoxes. Et par exemple, on m'a reproché, on m'a dit, vous faites une caricature du cardinal Burke ou du cardinal Bagnasco. Bon, bah, c'est eux les caricatures. Quand on regarde comment ils fonctionnent, moi je ne fais que caricaturer une caricature. C'est presque trop facile d'ailleurs de les caricaturer, tellement ils sont paradoxaux, tellement qu'ils sont d'une autre époque. Moi je trouve ça rigolo et ça presque touchant parfois, de bêtises. Mais encore une fois, 37 millions de personnes sont mortes du sida à cause de positions. Alors c'est pas l'Église qui les a tués évidemment, mais les positions sur le préservatif n'ont pas aidé. La guerre contre les homosexuels a coûté aussi beaucoup de misère dans le monde. Voilà, je trouve que tout ça est désespérant.
Mais c'est vrai que c'est un après-coup qui fait un peu BD comme ça, avec des méchants très typés et des gentils très typés, tout le monde très typé. Mais si on pense à la situation telle qu'elle était en Amérique latine, par exemple pendant les années 60 ou 70, ça n'avait rien de caricatural et surtout c'était incompréhensible. Parce que là, votre analyse, elle vient après, et elle fait système, elle met à plat un certain nombre d'enjeux et elle a un fil à couper le beurre, elle a un moyen d'analyse. Qui explique les enjeux, mais quand on au moment où on le vivait, c'était totalement incompréhensible.
Moi, c'est ce que j'essaye de faire, d'expliquer ce qui s'est passé, aussi de mettre en lien des situations extrêmes. Pourquoi tous ces gens-là ont été si homophobes? Pourquoi l'Église devient l'ennemi de tant d'homosexuels, mais aussi des femmes, hein, puisque on ne l'a pas dit, mais c'est un univers très très misogyne. C'est d'ailleurs lié à une forme d'homosexualité des années 50 qui était très misogyne. Il n'y a pas de femmes. Au Vatican, vous n'avez aucune femme, vous ne voyez jamais de femmes. Les rares femmes qui traînent, je dis vraiment qui traînent parce qu'elles passent là comme ça, vous les voyez à peine, c'est généralement des femmes de ménage qui sont mexicaines ou latino-américaines. Et c'est très rare, d'ailleurs, quand un cardinal a une femme assistante, ce qui n'arrive jamais, on peut être sûr qu'il est hétérosexuel, puisque c'est, et elles sont d'ailleurs souvent c'est très marginal. Donc voilà, je pense d'ailleurs que la question de la misogynie du clergé, le fait de refuser que des femmes deviennent prêtres, ce qui n'existe pas dans la Bible, qui n'existe même pas dans les évangiles, c'est une pure invention du Moyen-Âge, tardif. Certes, c'est il y a longtemps, mais malgré tout, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les évangiles. Tout ça est très misogyne. Voilà, bon, après... Au fond, moi, je ne suis pas croyant, donc je dirais que ce n'est pas notre problème. Là où ça le devient un peu, c'est quand des millions de gens sont affectés par des positions parfois moyenâgeuses et sinon, en tout cas, très conservatrices.
Oui, il est bien clair que la question du préservatif, par exemple, est absolument importante. Et vous dites qu'en Afrique, les prêtres sont hétérosexuels et ont des compagnes en général ?
Oui, ce qui est aussi très frappant, c'est comment ce discours, pour le coup très rigide et très radical, hein, d'interdiction absolue, enfin, la chasteté des prêtres, le célibat, tout un tas de règles, le devoir d'obéissance aussi, n'oublions pas, qui joue un rôle très important dans les affaires d'abus sexuels et le cléricalisme dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui est très frappant, c'est que toutes les études et les témoignages montrent que tout ça n'est pas respecté. En Afrique, les gens se marient entre eux, je parle des prêtres, ils ont très fréquemment une copine ou une compagne, parce que de toute façon, sinon on se moquerait d'eux dans le village, si n'était pas un peu macho. En Amérique latine, il y a des pays comme la Bolivie, comme l'Équateur, on pense aussi à ce qui se passe au Paraguay, en Uruguay, où les prêtres sont très souvent en couple hétérosexuel. Et d'ailleurs, un prêtre me faisait remarquer, au Mexique, c'est très simple, dans les villages, dans les campagnes, les prêtres sont hétérosexuels et généralement vivent à leur compagne. Dans les villes, ils sont homosexuels et vivent avec leurs copains. Voilà, enfin bon, si c'est vrai tout ça, il y a peut-être un moment où il faut que l'Église elle se dise que ça ne peut pas continuer comme ça. Surtout aujourd'hui où on a des vidéos, des enregistrements, les victimes portent plainte, la presse écrit.
Les réseaux sociaux.
Ça, les réseaux sociaux, tout ça ne peut pas, ce secret ne peut plus tenir. Il a tenu jusque-là. À l'époque, effectivement, les médias étaient complètement verrouillés, mais ça ne marche plus.
Et donc, cette vision qu'on avait de l'Italie de Don Camillo, avec un affrontement du prêtre et du parti communiste local, était très machiste. Et il y a eu toujours aussi tous ces enjeux idéologiques aussi qui viennent. Parce que vous dites qu'aux États-Unis, la religion catholique est minoritaire. Donc, elle est plus facilement critiquée. Et à chaque fois aussi, ces réalités de terrain. Il semblerait que les églises évangéliques prennent de la place en Amérique latine, au Brésil par exemple, particulièrement. Et c'est que s'il y a moins de vocations de prêtres, on n'a pas parlé de cet aspect-là, il y a de moins en moins de prêtres.
Oui, moi je fais un lien d'ailleurs. Je pense que au fond, tout est venu de la libération sexuelle. Jusqu'à la libération sexuelle, au fond, l'Église, elle était comme la société. Les gens étaient très dans une espèce de position morale, peut-être avec des doubles vies, mais voilà, on se mariait, on allait à l'Église d'ailleurs. Moi-même, je suis le produit de ça. J'étais un catholique quand j'avais 10 ans, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Après, il y a la libération sexuelle qui vient tout changer. La société se libère, et là, l'Église, elle est obligée de se bloquer un peu pour maintenir, au fond, son secret de l'homosexualité de beaucoup de ses prêtres et de ses évêques, mais aussi le fait que les prêtres hétérosexuels ne supportent plus ça. Et on va avoir ce grand départ très massif des prêtres dans les années 70 et 80 qui partent pour se marier. Hein. Les hétérosexuels s'en vont. Et donc, l'Église a de moins en moins de prêtres, les hétérosexuels homosexuels s'en vont. Donc, par nature, le pourcentage d'homosexuels augmente. Et aujourd'hui, les homosexuels eux-mêmes s'en vont. Parce que il y a d'autres options pour un jeune homosexuel de 20 ans en 2019 que de devenir prêtre, contrairement à ce qui était le cas dans les années 40. Et donc, vous avez donc ce phénomène. Les hétérosexuels ne veulent plus à cause du célibat. Les homosexuels ne veulent plus parce qu'il y a d'autres options, parce que cette église est trop homophobe. Et ben voilà, vous avez plus de prêtres. Aujourd'hui, en France, on a 800 prêtres qui meurent à peu près. Vous en avez 50, 60 qui sont ordonnés. L'église est condamnée dans 10 ans, 20 ans de plus avoir de prêtres, quasiment. Et alors, on retrouve ce même cycle. On fait venir des prêtres d'Afrique qui généralement sont ou des hétérosexuels qui sont mariés mais restent prêtres, ou ce sont des homosexuels qui, à cause d'une homophobie très forte en Afrique, du fait d'ailleurs de l'église, vont se réfugier dans les séminaires, ils se protègent et cherchent à s'échapper de l'Afrique en étant nommés en France, en Italie ou en Espagne, où on a aujourd'hui beaucoup de prêtres africains. Et on retrouve ce cycle infernal du mensonge, de la schizophrénie et de la double vie.
Vous avez écrit un livre sur la question homosexuelle.
J'en ai écrit
Global
deux.
Gay.
J'en ai écrit Global deux. Gay. J'ai écrit d'une part Le Rose et Noir, qui est un livre sur l'homosexualité en France de 1968 à aujourd'hui, ce qui m'a permis de comprendre d'ailleurs beaucoup de choses qui m'aident pour ce livre aussi. Et puis Global Gay, qui est un livre sur la question gay au niveau international.
Parce que vu d'ici, nous, on peut pas. Comment ça se fait cette homophobie, par exemple au Kenya? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays où ils font des lois, où il y a des affrontements extrêmement violents autour de la question homosexuelle?
Alors bon, après,
je vous demande ça parce que vous avez écrit Global Gay.
Oui, d'abord, on est sur des livres. Sur des pays où il y a beaucoup de violence, hein. C'est comme aujourd'hui au Brésil, on parle des crimes homophobes réels, bien réels, mais c'est aussi une société très violente. Il y a beaucoup de crimes en général, donc forcément il y a aussi des homosexuels parmi ces victimes dans un pourcentage qui est très élevé, notamment à cause de Bolsonaro, le nouveau président brésilien, qui est très très homophobe publiquement. Et du coup, même si lui objectivement n'a pas sans doute tué d'homosexuels, il n'empêche que par son discours il suscite. Et c'est le cas aussi du problème au Kenya. Ces discours homophobes, les lois homophobes contribuent souvent que dans les villages ou dans des favelas pour le Brésil, on va avoir des crimes qui vont être commis au nom de ces discours haineux. Et pour le Kenya, ce qui est frappant, comme d'ailleurs pour beaucoup de pays d'Afrique anglophone et aussi d'Asie, c'est qu'on retrouve un article de loi dans ces textes, dans les lois, dans le code pénal local, qui condamne l'homosexualité très violemment. Et quand on regarde l'histoire de cet article, généralement c'est l'article 377 du code pénal de ces pays, et qu'on remonte à l'origine, on voit qu'il est né, et c'est une copie du code pénal indien, qui a été généralisé dans tous les pays du Commonwealth par l'Angleterre victorienne. Et donc, en fait, c'est une homophobie apporté par les colons et par le colonialisme. Et donc tous ceux qui disent aujourd'hui il faudrait supprimer, interdire l'homosexualité parce que c'est pas conforme à l'Afrique, c'est une erreur historique, c'est l'inverse. C'est le colonialisme qui a amené l'homophobie pour essayer de purifier ces populations qui étaient considérées comme trop avec des mariages multiples, avec plusieurs femmes et avec aussi des homosexuels. Et donc ce qui est très frappant, c'est que si on veut être revenir à une pureté africaine, il faudrait supprimer ces lois homophobes venues de cet article 377 du code pénal indien imposé dans le Commonwealth et dans l'ensemble des pays anglophones, notamment en Afrique, par l'Angleterre victorienne, et retrouver une forme de neutralité africaine, ce qui a toujours été le cas. Au fond, on sait très bien qu'il y a des rites de passage dans l'islam, bien sûr, mais aussi dans l'islam, en tout cas dans la société arabe et aussi dans la société africaine.
Oui, je me souviens d'un livre de Godelier, qui est un ethnologue français.
Très connu, oui, bien sûr.
Sur les initiations entre garçons en Nouvelle-Zélande ou en Australie, enfin, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent, c'est ces sociétés.
Absolument.
Les rapports. Et ça, on ne parle pas d'homosexualité, c'est les âges de la vie, en fait, c'est des expériences et des passages. Et bon, je ne sais pas si vous me direz, si la question est impertinente, mais est-ce que vous avez fait des comparaisons avec l'Église anglicane, le protestantisme, d'autres institutions?
Ce n'est pas ma spécialité, donc je me suis contenté de lecture de seconde main pour ça, alors que tout le reste du livre est vraiment basé sur de l'enquête de première main, d'enquête de terrain surtout, dans 30 pays, et où j'ai vécu aussi au Vatican pendant près de 4 années, à peu près une semaine par mois, à Rome, et peu à peu au Vatican même, avec 3 appartements dans le Vatican. Sur les autres religions, je suis pas vraiment capable de répondre. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la plupart des religions permettent le mariage, y compris d'ailleurs l'Église catholique, ce qu'on oublie souvent, puisque les églises catholiques d'Orient, les prêtres peuvent être mariés, en tout cas avant d'être ordonnés, et donc restent mariés. Ils peuvent pas devenir évêques, mais on a beaucoup de prêtres, énormément de prêtres mariés dans l'Église catholique d'Orient. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des prêtres catholiques dans nos églises à nous qui sont mariés, puisqu'ils viennent de l'Orient, ils ont été nommés en France, en Italie ou en Espagne. C'est un phénomène d'ailleurs intéressant, ce qui prouve que là encore, la doctrine a su s'adapter. Mais pour revenir à votre question, à partir du moment où les prêtres peuvent se marier dans un certain nombre de religions, les imams, mais aussi les rabbins, vous avez, alors il y a tout un tas de problèmes, il y a aussi des abus sexuels, c'est d'ailleurs bien connu pour la question des rabbins ou d'autres, mais je ne pense pas qu'il y ait ce phénomène aussi massif d'homosexualité, parce que les prêtres sont mariés, donc du coup il n'y a pas le célibat et la chasteté, qui encore une fois, je le rappelle, est la clé qui attire les homosexuels vers l'Église. Et ce qu'on comprend, et moi je comprends même leur démarche, simplement les effets après démographiques, sociologiques sont très massifs. Hein.
Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer comment maintenant votre livre est créé vous allez en Argentine pour parler de votre livre.
Du livre, oui, il est sorti là cette semaine.
Donc là il va y avoir il va se passer quelque chose, il va y avoir des retours.
Oui, je sais pas. Je crois que, vous savez, on est face à une institution qui est quand même très habile dans sa capacité à se maintenir stable. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas attendre de grands changements. En tout cas, je pense qu'avec ce pape, qui encore une fois, je suis plutôt favorable à ce pape dans ce livre. Mais je n'en attends pas grand-chose. Je pense qu'on ne peut pas demander à un homme péroniste, jésuite, argentin, de 82 ans, d'être... je pense qu'il ne se passera pas grand-chose de plus, qu'on va rester dans cette espèce de mensonge. Mais de toute façon, ça changera un jour. Je pense que les femmes seront ordonnées prêtres et les homosexuels seront tolérés, acceptés, peut-être valorisés un peu plus dans l'Église. Je dirais que, on verra, pour être prudent, je dirais qu'on verra ça sans doute de notre vivant. Après, est-ce que c'est dans un an ou dans 15, on verra.
Vous étiez mentionné dans un article du Monde, là, où il y a un prêtre qui parle de fake news et dans un certain nombre de choses. Il y avait votre livre, vous l'avez vu, Sodoma ?
Oui, enfin, vous savez, c'est un livre qui a suscité énormément de critiques, de réactions. On a énormément de... c'est vraiment des milliers d'articles. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'attaquent, beaucoup de gens qui me défendent. Vous voyez, moi, j'ai fait mon travail. Chacun peut le lire s'il veut, l'utiliser, s'en servir pour réformer l'Église ou pas. Moi, je ne suis pas... Je dirais que c'est un livre qui me dépasse maintenant et qui ne m'appartient plus, au fond.
C'est aussi un livre collectif, il y a une équipe de travail.
Ouais, enfin c'est moi qui l'ai écrit seul, qui ai fait l'enquête seul partout sur le terrain. Effectivement, j'ai été aidé par des traducteurs, des fixeurs, des researchers qui ont enquêté dans les archives, qui m'ont préparé mes voyages. Donc effectivement, il y a 80 personnes qui m'ont aidé à travers le monde.
Il est édité dans 20 pays, enfin c'est vraiment c'est une
Voilà, c'est une petite
chose.
Industrie culturelle, mais c'est aussi un livre très artisanal qui est sorti effectivement dans une vingtaine de pays. On vient de rajouter une dizaine de traductions. Donc au final, il sortira dans presque 50 pays d'ici, je dirais, la fin de l'année.
C'est extraordinaire.
Voilà, on s'amuse un petit peu.
Ah non, mais c'est une grande chose d'avoir fait quelque chose.
Puis il a un
comme
titre bien facile à retenir, mais un peu provoquant, Sodoma. On me l'a reproché, mais vous savez, c'est la Bible, hein, c'est la Genèse 19. C'est très simple. L'Église catholique a expliqué que la ville de Sodome, quelque part entre l'Israël d'aujourd'hui ou la Jordanie d'aujourd'hui, avait été détruite par Dieu parce que sa population était homosexuelle. C'est apocryphe, sans doute faux d'un point de vue à la fois biblique, d'un point de vue théologien et aussi d'un point de vue bien sûr archéologique, mais comme c'est ce que dit l'Église, je prends ce mot, je les prends au mot, je dirais, avec ce titre Sodoma.
Merci d'être venu et bonne chance pour la suite.